Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons retrouver Stéphane Vidal. Enfin, pas Stéphane lui-même, mais ses textes. Et vous allez voir. Tout d'abord, un texte qui s'appelle « L'Auvergnate ». En ce moment, j'ai envie de dire à certains que moi, si je les croise, je leur paye un café. Je ne les achète pas, je partage avec eux. Alors, ne vous étonnez pas si ce n'est pas le même tarif. Un petit tourment de dernière minute que je lâche ici avant de tenir ma promesse envers Yves du groupe de soutien Xavier Mathieu, au sujet du cœur auvergnat. En 2007... au moment où se déroulait le Festival de Cannes, je suis descendu sur Nice, passer quelques jours chez des amis. Et au retour, j'ai décidé de passer par la route du bord de côte en stop. Je ne me doutais pas qu'arrivé à Cannes, je tomberais sur l'ouverture du festival. Alors, visez l'image. Un crâne aussi bronzé que celui de Cousin du Rasoir, il se reconnaîtra, et bien taillé après avoir bétonné 2 mois sur une piscine en Ardèche sous son soleil d'avril, un Marcel bleu et un bas Nike gris qui traînait par terre, plus un sac marin. Déjà, voilà quoi. La Maserati avec le gros logo Maserati, location, le canette dessus. Des cinquantenaires, voire 90 tonnerres avec au bras plein de petites aïas. À ma droite, comme par hasard, des petits vieux avec à leurs bras leurs petites filles qui pestaient contre les bruits qui leur pourrissaient la semaine de congé annuel dans leur maison secondaire sur place. Bref, je me suis retrouvé avec mon fameux poteau Yacine sur le parking de l'hosto où il squattait avec le légionnaire, enfin l'ancien légionnaire. J'avais écrit un article sur cette rencontre. Mais le lendemain, je repris ma route, mais avec peu dans le ventre. Sous le soleil et la marge entre 2 bagnoles, je me suis retrouvé à Fréjus en fin d'après-midi. À une bretelle d'autoroute, il y avait un hôtel, et je me suis rendu à l'accueil. Là, une belle fille et très classe m'a reçu. J'ai demandé un bout de pain et quelques confitures. Elle a tourné les talons pour revenir avec un sac, voilà la totale. Fourchette, plus couteau en dur, et je suis parti becter après avoir dit merci. Pendant mon repas, à regarder passer les bagnoles, je pensais à l'Auvergnat de Brassens, et j'étais sûr qu'elle en était une. Après avoir fini, j'ai rangé le rap dans le sac, et je lui ai ramené les couverts. En arrivant à l'accueil, elle était au téléphone et avant de raccrocher, elle dit « Je serai à Clermont ce week-end, papa. » Oh, vous emballez pas, hein, j'ai pas tapé l'incruste jusqu'au week-end pour qu'elle me remonte à Livron, non. Non, trop de classe pour me permettre ce genre de choses. Et sans cette classe, je n'aurais pas attendu le week-end pour remonter à Livron. Alors, au péage de Fréjus, assis sur le béton où la barrière se lève, je voyais encore des Maserati et ça m'amusait. Ça m'amusait car quand les gugus s'apercevaient que mon sourire était braqué dans les yeux de Zaya et que j'absorbais le sien, ben, il me prouvait en accélérant dans le vent qu'il ne savait ni conduire la Maserati ni la fille. Arrivé à Livron, dans mon petit chez-moi, j'ai pris un dépliant de la chaîne d'hôtel en question et je lui ai écrit un courrier. Je l'ai remercié et je lui ai dit aussi que si elle ou quelqu'un de son entourage était en souci dans le périmètre de Livron, entre Lyon et Marseille, qu'elle conserve mon numéro. Sur l'enveloppe, j'ai écrit son prénom, Karine d'Auvergne, hôtel Blabla, Fréjus. Et une semaine plus tard, je recevais un texto super sympa, ainsi que des échanges tout aussi sympas, avant de continuer ma route de qui ne méritait pas cette classe. Là, ben, j'ai rien regretté de cette rencontre. Comme ça, on peut voir aussi la différence entre le café et le prix. Ça n'a pas de prix, même en Maserati.
Mes sabots ne sauraient m'en défaire. Le ciel me pèse sur le dos. J'ai pleuré les rivières. J'ai sangloté tant de ruisseaux. Mes doigts sont rivés à mon seau. Porteuse d'eau pour ma vie entière. La 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 la. Je suis taillé dedans ce bois qui emmanche les bêches, celui duquel on fait les croix, parfois aussi les flèches. J'ai les semailles au fond de moi et les vendanges au bout des doigts. Et dans ma voix, le chant des herbes sèches. La 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 la. Ma seule chaîne est celle d'un puits. J'ai l'âge des fontaines, l'humeur du temps qui change et fuit, la patience des graines. Quatre saisons filant sans bruit, le jour et puis un jour la nuit, la mort. Que la terre me prenne. La 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 la.
Un texte dont le titre est Jérémy Martinez, 2008, Maison d'arrêt de Valence. Tu te souviens, Rachida ? Cela, faut que je l'écrive à l'heure où un seul candidat clame haut et fort l'humain d'abord. D'abord parce que je suis d'accord, et ensuite parce que je ne peux compter sur le temps qu'il me reste de liberté. Qu'on m'aime ou pas, je m'en bats les couilles. L'amour est important quand il vient des gens importants autour de soi. Et comme disait Daniel Balavoine, aimer est plus fort que d'être aimé. L'amour pour autrui, j'en manque pas. Mais quand il est humilié, cet amour, c'est sans retour et sans cadeau de ma part. Alors, j'écris pour ceux qui savent quoi faire de ces écrits, qui ne sont que du vécu et un vécu analysé et réanalysé, Alors s'il faut ou un politiquement incorrect ressort de ma verve, cela n'éduque à la liberté que j'ai prise de m'auto-instruire et une liberté que je garde pour m'auto-confirmer. Aujourd'hui, je vois de belles choses se produire autour du fond de gauche, de l'humain et de l'espoir, mais tant qu'on ne tue pas les tumeurs, le cancer reste vaillant. Alors, j'entends déjà les langues de pute dire « Ouais, il parle de ça, mais lui, il insulte tout le monde. » Bah, nique ta mère, comme ça c'est fait. Pourquoi la justice envoie un gamin en comparution directe en maison d'arrêt pour quelques grammes de shit ou deux, trois poubelles cramées? Pour les punir parce qu'ils sont vilains? Ok, alors pourquoi un violeur, un assassin finit par sortir de sa préventive avant son procès? Parce que présumé innocent? Ou parce que le vice de cette justice est de laisser traîner? Traîner afin de calmer la peine et pourquoi pas la haine de la victime? Des règlements intérieurs en prison, il y en a en veux-tu, en voilà. Comme dans les entreprises, ok. Mais l'entreprise, quel que soit le règlement intérieur, c'est 35 heures par semaine. Et s'il y a des heures supplémentaires, où elles sont payées, où elles sont rattrapées en congé. Bref, c'est pas le cas pour le détenu. Et plus la peine est courte, plus il a de chances de la rallonger. Parfois à vie, et même toute sa mort. Car mourir en prison, c'est bien triste. Surtout quand t'as à peine 19 ans et que tu n'as pas sorti la corde. J'avance le cas de Jérémy, car il ressemble tous les autres en lui-même. Tout ce qui me dégoûte de la bassesse humaine, de la honte d'être de la même espèce que certains spécimens à deux pattes. En 2008, le 8 février exactement, j'ai craqué. Vous savez, vous qui venez de perdre votre emploi et voyez l'avenir difficile, ce que veut dire l'expression « plein les couilles ». Lessivé du cerveau et même si on lâche rien, les bras traînent par terre. J'ai donc pris un cumul de peines. Et je voulais dire aux bien-pensants, aux gens qu'on appelle communément très souvent « bobos », que vous n'êtes pas innocents. Aujourd'hui, il me serait facile de récidiver avec le nombre d'invitations que je reçois pour me dire « Viens nous voir ». La veille de ce 8 février, j'étais chez une journaliste du Dauphiné Libéré à Valence, ami de mon ami que je tentais en vain de sortir de sa merde, alcool, héroïne, schizo peut-être, j'en sais rien. Avait-elle la solution miracle dans cette période délicate? La seule chose véritable qu'elle ait fait pour moi, c'est partager sa bouteille de vodka et voilà bien un produit que je ne toucherai plus jamais. Car si personne ne te l'enlève, les clés de l'auto, t'es foutu. Même si les gendarmes te trouvent en train de dormir au volant au bord de la route. Le réveil est brutal et t'as tendance à demander l'impossible. Enlève ton coup cagou. Non ? Ok. Et boum, le plaid glisse sur l'accélérateur et ça fait du boulot pour le carrossier. Bref, y a pas mort d'homme. Et il faut pas longtemps pour que le militaire s'en rende compte que t'es pas l'ivrogne habituel, mais c'est trop tard. Tout ce qu'il pourra faire pour toi, lui qui était persuadé de te voir sortir libre du tribunal le lendemain, c'est de te prêter son portable perso le temps de te conduire à la maison d'arrêt pour appeler ta compagne et de te serrer la main avant de te remettre au chef de détention. Alors, t'arrives dans cette maison d'arrêt chez toi, à Valence, et la semaine qui suit, t'es direct embauché au service technique. Bah, c'est normal, hein, tu connais tout le monde. La maison d'arrêt est en travaux, mais des travaux qui perturbent vraiment la sécurité de tous. 80 places pour le triple de détenus, où tout le monde est mélangé. Enfin, presque. Les moins de 20 ans avec les moins de 20 ans. Jérémy a été un temps gameleur. Bah, il poussait le chariot, et vu son gabarit, c'était pas facile. Ce chariot était lourd et cognait quelquefois un peu partout, et surtout les serrures en laiton, qui coûtent cher à la pénitentiaire. A priori, plus cher qu'une vie. tellement elles étaient chères chez Serrure qu'elles n'étaient pas aux normes. Et qu'un coup de pied, ça suffisait à les faire sauter. Je le sais, car c'est moi qui les remplaçais, ces serrures, quand toutes les ampoules brillaient. Au bout de la troisième, Jérémy a été viré de son poste, sans préavis, avec retenue du prix de la serrure sur son salaire. Renvoyé en détention, Jérémy a trouvé place dans une cellule de deux avec un moins de 20 ans comme lui. Comme lui ? Bénichou et Chabal dans la même cellule. Lequel écrase l'autre, hein ? Ah, Chabal, c'est un Valentinois comme Jérémy et moi. Mais c'est pas un fou. Il a pas brûlé un SDF, ni commis d'actes de torture et de barbarie. Jérémy non plus. Jérémy avait une courte peine à faire, et même s'il se faisait mousser devant les minots de son âge, c'était physiquement un faible et mentalement un gentil. L'autre, il avait que de la haine dans les yeux et une masse de viande sur les os qui en crise, aurait tué Chabal. Ouais. Chabal, seul en cellule avec ce jeune, aurait perdu la vie face à une de ses crises. C'était un malade qui avait rien à faire en maison d'arrêt, car c'est le genre d'individu qui donne un sens à la psychiatrie. Dès lors que le crime abject a été commis, à quoi sert d'attendre une récidive ? Et pire, de la provoquer en lui ramenant délibérément une proie. Le règlement, les moins de 20 ans avec les moins de 20 ans. Même si, plus loin dans ce règlement, un autre paragraphe stipule que les criminels ne doivent pas partager leurs cellules avec les correctionnels, et qu'un autre, encore plus loin dans le règlement, ne mélange pas les préventives avec les condamnés. Pas un seul surveillant ni un seul détenu ignorait que dans cette cellule, il ne pouvait y avoir qu'un seul résultat morbide. Puis un soir, je me réveille comme si quelque chose m'interpellait dans mon sommeil. Ma cellule donnait sur le terrain de sport de cette vieille prison et celle de Jérémy était à l'opposé. Les murs faisaient résonner le moindre bruit comme un écho de montagne. Je monte sur le tuyau de chauffage pour accéder à la haute fenêtre. Je m'accroche au barreau car ce calme n'est pas habituel. Ouais, ça sentait, pour ne pas dire la mort, le macabre. Et puis, des hurlements ont terrifié la nuit éclairée des lampadaires. Des hurlements qui ont fait siffler les barbelés. « Non ! Pourquoi tu m'as fait ça ? Je t'aimais, moi ! Pourquoi ?» La prison s'est réveillée et on a tous défoncé nos pieds dans les portes pour appeler les surveillants. Et ceux-là, ils n'ont pas tardé à paniquer. Car de toute façon, ils n'avaient pas les clés des cellules. Dans une prison de moins de 80 places, le gradé détenteur des clés n'est pas obligé d'être en poste la nuit au sein de la maison d'arrêt. Même si le nombre de détenus est largement supérieur au nombre de places. Le cirque continue aux fenêtres et tout le monde croit au suicide car le fou est à la fenêtre en train de pleurer depuis le début comme s'il essayait de décrocher son co-détenu. Puis le gradé arrive en même temps que les secours, et il trouve rien de mieux que d'encager le fou dans notre couloir. Et l'ambiance est de plus en plus sombre. On l'entend débiter des phrases sans queue ni tête qui glacent le sang un peu plus. De quoi faire sortir la corde à d'autres dans la loi des séries. Puis des rires, des bruits de pas, de chariots, mais qui ne transportent pas le repas. Juste un jeune homme qui achève à peine son adolescence et qui ne saura jamais ce que c'est que de devenir un homme. Mais il y a un intrus dans cette ambiance funèbre, des rires moqueurs. Qui jouait le comique devant les autres ? Qui avait cette faiblesse-là ? Le pompier habitué, le flic vicelard, le maton de service ? Nul ne sait à part eux. Mais l'envie de gerber monte, et quand j'entends encore cela, parfois, la gerbe me revient. Jérémy n'était pas mon fils, ni mon frère, ni même un cousin. Mais ça m'a meurtri au plus profond de moi. Et j'ai pas accepté d'accepter d'oublier et de passer à autre chose. Un autre mort, un autre cadavre. Oh, c'était pas la première fois que je côtoyais la mort en prison. Et pourtant, j'étais comme une bouteille pleine qu'on essaie encore de remplir encore. Je n'ai même pas vu son corps. Mais le simple fait de savoir que ce gamin avait la joie de vivre de ceux qui ne sortiront jamais la corde, je n'acceptais pas. Que ce soit à Villefranche, à Nanterre ou à Lorient, décrocher un corps bleu de sa corde, j'assumais. Mais là, je n'avais rien à faire, juste à fermer les yeux et ne rien écouter. Et je n'y arrivais pas. Le lendemain, Taïeb. Vous vous souvenez, mon ami Taïeb, le bibliothécaire qui a perdu 10 000 euros avec Maître Collard et qui perd en ce moment même 17 ans de sa vie pour ce prix-là. Taïeb a été contraint de prendre le fou dans sa cellule. Prévention du suicide, le temps de l'enquête. Alors, il avait cette masse au milieu de sa cellule, abrutie par les médocs. Personne n'osait parler de crime ouvertement, car au moment du drame, la thèse avançait le suicide pour faire éviter un lynchage possible. Même un quartier travailleur avec un tel personnage peut devenir criminel. Puis, quelques jours plus tard, les encagoulés sont venus le chercher pour le conduire au mitard, le meurtre étant avéré, et un maton s'est fait péter le nez. Au moins une bonne justice de fait, car celui-là, c'était une belle pourriture. Pour les Valentinois qui lisent ou ont vécu la détention à Valence en cette période, je parle du Niçois alias Moustache. Oh, il n'est pas resté au mitard longtemps. Il a vite été transféré au centre d'expérience de l'eugénisme pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Ne cherchez pas dans le bottin, vous trouverez rien d'autre que maison d'arrêt. L'ambiance à Valence est partie en couille malgré le nouveau directeur. Un directeur tout neuf. Monsieur Rivière. Mais qui avait des couilles. Ouais, c'est bien la première fois qu'un directeur a osé entrer seul dans ma cellule alors que j'en voyais tout en l'air. Valence, c'est une prison du Sud et de caractère bien obligé, coincée entre Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et le Grand Sud. Et elle ne demandait pas son reste, niveau corruption. Rivière n'avait confiance en personne. Mais le sujet n'est pas lui. C'est pas Rivière qui a mis Jérémy dans cette cellule. Et si Jérémy a demandé à y aller, c'est qu'on lui a un peu forcé la main. Depuis, un brigadier a été lourdement sanctionné, mais pas pour Jérémy, juste pour corruption. De toute façon, il n'était ni lié au changement de cellule, ni de service la nuit du crime. Le vrai coupable ? Patrick Labeaume, qui en 15 ans a fait de Valence une ville de décadence. Un maire qui ne jurait que par l'apparence, un peu comme un Sarkozy qui veut être encore plus rapide pour que le Parisien qui arrive à Marseille en 3 heures par TGV rallonge aussi rapidement son parcours jusqu'à Nice, quitte à repousser l'autochtone dans ses cages de béton qui prépare à la prison. Un autre, le procureur Nahon, que j'ai fait vociférer en public par mon arrogance. Quand je dis que la prison n'est pas assez rude pour ce genre d'individu, Monsieur Vidal en est la preuve. Ah non, mon con. Monsieur Vidal, c'est juste une preuve supplémentaire que vous êtes une belle bande de crapules complètement pourries, toi et ton larbin maître fort, qui peut se faire annuler n'importe quel rendez-vous au service social pour utiliser le bureau SPIP. Car le parloir avocat, il supporte pas. Avec un chèque à l'amicale des matons, ça aide, hein, salope. Ah, dis merci à mes amis avec qui j'ai grandi, qui protègent ton cul de malhonnête et de racketteur de racaille. Car la haine que toi t'as réussi à me mettre, c'est eux, à Grenoble, qui me l'ont soigné avec leur amitié. Même si nos routes sont différentes, on vient de la même merde. Et si je les respecte, eux, c'est qu'ils me respectent, moi. Alors que toi, tu ne respectes rien. crapule d'avocat collabo de Besson. Lui aussi, c'est ton pote, hein, Maburne. Jérémy n'avait qu'une maman et qu'une grand-mère, qui n'ont, elles, qu'une avocate à hauteur de leur salaire pour rivaliser avec ceux de la pénitentiaire. Un petit envoyé spécial pour dire que les choses sont prises au sérieux. Seulement, les seuls qui n'étaient pas des figurants dans ce faux et usage de faux, mis à part la grand-mère, la mère et l'avocate, n'est autre que le diacre de la maison d'arrêt de Valence, brave homme qui venait fumer son clope avec moi quand il était de passage en détention. Ouais, pas la clope. Les anciens disent ton clope, pas ta clope. Tout le reste était faux dans cette émission qui devait faciliter la tâche à Rachida et son cacharel qui a embaumé Valence avant de venir embaumer Grenoble quelques mois plus tard après un autre meurtre, celui de Zgaïa. Si je dois revivre la même à Metz d'ici peu, je préfère vider tout mon sac avant afin de rien emporter avec moi. Car parfois, la corde, c'est pas toi qui la glisse autour du cou. Trop maladroit peut-être. On t'aide un peu. Et ce genre de suicide ne rate jamais. Alors, l'humain d'abord, monsieur Mélenchon, je veux bien, mais moi, l'abstentionniste d'origine socialiste que je suis, je voudrais croire en vous. Ça m'aiderait bien si quelqu'un me disait honnêtement « Stéphane, t'es trop hard, t'es pas le bienvenu. » Ou « C'est pas le lieu, peux-tu retirer ton texte ?» Quand je pose un texte humain et vrai sur votre page ou que je jongle un peu avec de la poésie d'autodidacte pour ceux qui ne peuvent pas comprendre si on n'y met pas un peu d'identité, en l'occurrence la mienne. Les administrateurs sont à votre image sur le net, ils m'aiment ou pas. C'est vous que ça engage, et vous le dites vous-même, monsieur Mélenchon. Le mépris, c'est le début du fascisme. Moi, je rajouterais que l'honnêteté, c'est le début des soins. L'humain d'abord, oui. Là où je suis plus d'accord, c'est quand vous dites un fonctionnaire, ça doit obéir. Certes, ça doit obéir, un fonctionnaire, mais à condition d'en avoir les capacités. Et l'humain, pour être un bon professionnel, il a besoin d'une conscience professionnelle. Et le résultat de son travail doit primer sur le résultat de sa carrière. Aujourd'hui, vous dites qu'ils doivent obéir. Ok, mais beaucoup sont à recadrer en justice comme dans le social. Un rappel au labeur plutôt qu'à la loi serait le bienvenu. Ce n'est pas chez le magistrat ni chez le procureur que le taux de suicide risque d'exploser. Alors, vous pouvez pas être partout pour que l'humain passe d'abord et que cela ne soit pas réservé à ceux qui n'ont pas encore été salis. Voilà. Cette prise de la Bastille m'a donné l'envie d'en rajouter une couche et je sais que les petites cellules de captage de souffrance que nous sommes, nous, les citoyens politiquement incorrects ou pas, vous sont nécessaires pour avancer contre la haine et l'arrivisme. Je suis anti-secret, mais je vous accorde le fait que les gens issus de la maçonnerie qui ont accompagné juifs, tziganes, communistes, homos, résistants de tout ADN dans les camps de la mort pour être exterminés, avait plus de chances de s'appeler Mélenchon que Guéant ou Collard. Et bien sur ce point que je ne souhaite pas me tromper. Aujourd'hui, on voit des gens tenter de changer les choses, comme M. Botton, comme certains réalisateurs cherchant à faire sortir la vérité de derrière les murs de la République. Tout ça, je le cautionne à 100%, mais socialement, ce sont des gens qui ont une valeur certaine pour encadrer cette jeunesse qui a faim d'égalité, soif de liberté et la rage de ne pas être considérée par la famille France. Des sages qui pourrissent en prison et qui ne sont qu'un gâchis d'humanité alors qu'ils sont souvent seuls à pouvoir gagner la confiance de cette jeunesse qualifiée d'extrême. Si l'homme est une bête comme les autres, il n'y a pas besoin d'être vétérinaire pour savoir que la douceur passe par la confiance. Amen.
bâtisseur de cathédrales, il y a tellement d'années, tu créais avec des étoiles, des vitraux hallucinés, flammes vives, tes ogives s'envolaient au ciel léger, et j'écoute sous tes voûtes l'écho de pas inchangés, mais toujours à tes côtés, un gars à la tête un peu folle n'arrêtait pas de chanter en jouant sur sa mandole. Sans le chant des troubadours, n'aurions point de cathédrale. Dans leur crypte, sur leur dalle, on l'entend sonner toujours. Combien de fous, combien de sages ont donné leur sang, leur cœur, pour élever de vers les nuages une maison de splendeur. Dans la pierre, leur prière, comme autant de mains levées, ont fait chapelle plus belle que l'on ait jamais rêvé. Le jongleur à deux genoux a bercé de sa complainte les gisants à l'air très doux, une épée dans leurs mains jointes. Sans le chant des troubadours, n'aurions point de cathédrale. Dans leur crypte, sur leur dalle, on l'entend sonner toujours. Toi qui jonglais avec les étoiles, ô bâtisseur de beauté, ô bâtisseur de cathédrale, oh, puissions-nous t'imiter. Mille roses sont écloses au cœur des plus beaux vitraux, mille encore vont éclore si nous ne tardons pas trop. Et si nous avions perdu nos jongleurs et nos poètes, d'autres nous seraient rendus. Rien qu'en élevant la tête. Sans le chant des troubadours, n'aurions point de cathédrale. Dans leur crypte, sur leur dalle, on l'entend sonner toujours.
Un texte qui s'appelle « La vengeance du hérisson hérissé ». La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. Voilà des paroles sincères d'une époque fière où l'on pensait à raison que la révolte universelle serait culturelle. Mais comme une révolution ne vient pas sans sa contre-révolution, on nous a foutu Skyrock dans les pattes avec un dit foule à l'amende par le boss, mais qui raquettait la conscience des adolescents en leur enfonçant fort dans la tête qu'il est juste et rigolo de déranger le citoyen à 23h du matin pour le faire crier dans le combiné. « Vous n'êtes qu'une bande de voyous, je n'ai rien à voir avec vous !» Mais non, madame. Au contraire, cette jeunesse attendait après vous pour que le Sky System ne soit plus un monopole gerbant destructeur de neurones et de valeurs citoyennes. Grâce à votre manque d'indignation, madame, la citoyenneté est devenue une ringardise, les droits de l'homme un mensonge, et le pire du pire a laissé la place à un diplomate aussi silencieux que vous à cette époque, écrire un livre en retard de plusieurs décennies sur l'indignation.
Comment ? Comment osez-vous vous attaquer à un pépé ?
Bah non, je m'attaque pas à un pépé, mais à un diplomate qui a sa loge, un diplomate qui n'a pas toujours eu les cheveux blancs et qui n'est même pas de la même trempe que d'autres têtes blanches croisées sur ma route et qui ont survécu au maquis. Certes, sa parole télévisée est juste. La drague d'un électorat de gauche qui varie d'Aubry à Europe Écologie sonne faux, mais sa parole est juste lorsqu'il dit « faites confiance à la jeunesse ». Ouais, mais laquelle de jeunesse ? La même que 68 ? Une jeunesse bobo qui demandera juste ce qu'il faut pour laisser le même pouvoir reprendre le pouvoir ? Comment connaître le poids de ce pouvoir si nous ne sommes pas sous ses pieds ? La justice, nique sa mère, le dernier avocat que j'ai vu était plus accro que le toxico de mon caniveau. Sans cesse, les individus appartenant à ce genre de couche sociale prennent en otage plus fragiles qu'eux, sans faire vaciller ce pouvoir. Sans cesse, à chaque mouvement social, ce sont les gens fragiles qui restent sur le carreau et en subissent les conséquences. Mais jamais les collabos de ce pouvoir ne sont inquiétés. La preuve en est qu'aujourd'hui, où l'appel à la résistance se fait sur les réseaux sociaux, au milieu d'un tas d'autres appels de fous furieux d'extrême droite à extrême gauche, en passant par les dérives religieuses qui ne respectent même plus Dieu, car Dieu est amour pour tous, même pour ceux qui n'y croient plus, l'appel de cette résistance citoyenne est violé, terrorisé, abattu par ces diplomates et ces classes moyennes qui oublient volontairement que notre seule arme avant la violence et la non-consommation. Comment peut-on vivre en paix et sereinement lorsqu'on s'arrête toujours avant la faim, toujours avant que le bénéfice d'une insurrection profite à tous, y compris hors frontières ? Aujourd'hui, si l'on s'inquiète du fait que toutes les familles françaises sont touchées par le cancer ou la maladie d'Alzheimer, on oublie que quasiment toutes ont un parent à l'étranger, une pièce rattachée ou une adoption de cœur ou simplement la beauté du métissage qui n'a pas attendu des pseudo-présidents comme Nicolas pour l'imposer. Ce métissage sans amour ni bouquet de fleurs. Comment peut-on dormir et sucer son pouce tranquille après cela ? Lutter contre le travail au noir et le même jour réclamer 78 millions d'euros à une autre petite de ce pouvoir qui remplace les feux de l'amour depuis le début de ce quinquennat fantoche. Se faire insulter par un roquet de ce pouvoir qui traite les familles racailleuses de cancer du RSA et ne pas avoir le droit de répondre. 5 personnes immolées depuis la rentrée et pas un mot sur eux, car les médias sont autant accros que nos avocats. Une parole, certes, celle d'un ministre aussi corrompu que les autres, une parole insultante qui ne donne de la valeur qu'à l'eugénisme en traitant ouvertement cette enseignante immolée de folle. Des guerres en veux-tu, en voilà, dans le seul but de voler encore et encore des richesses outre-mer, où le drapeau tricolore se noie dans le sang tout aussi pur que celui de la Terre globale. Citoyens, ne vote pas, ne paye pas, ne t'indigne surtout pas si, comme moi, t'es un sanguin véritable et pas seulement sur le clavier. Car ce pouvoir a besoin de violence pour avancer. Et si vous ne réagissez pas devant un grand-père ou une grand-mère venue soutenir l'avenir de ses petits-enfants en s'indignant, comme le demande le messie du stylo, et qui se font bousculer par la pire espèce de l'humanité, le CRS qui n'a rien à envier à la Gestapo ou les milices pétainistes, pour moi c'est impossible. Désolé. Impossible pour moi de ne pas me saisir d'une plaque d'égout et de fendre en deux le crâne en même temps que son casque de ce chien. Bousculé, meurtri, choqué, valeur citoyenne violée. Et après, on ira dire que le ridicule ne tue pas. Mais regardez devant vous, le ridicule est assassin comme rien d'autre. Si demain, moi, je m'indigne assis par terre avec des sœurs et des frères de tous horizons, je ferai de ce ridicule la fin de ma conscience, car ma réaction face à de tels agissements ferait de moi le déclencheur de ce que je redoute tant pour nos enfants, la guerre civile, et donc forcément raciale, celle qui fait mouiller la culotte de Marine et bander Soral. Idem pour ce pouvoir en place et son chien de garde, le grand Claude et ses tapins. Et également, bien sûr, bon nombre de manipulateurs cachés à gauche en s'en disant non-racistes. Alors, citoyens de 3e, 4e, 5e zone, soulève-toi, ne t'indigne pas, car ta dignité à toi, personne n'a le droit de te la prendre. Soulève-toi et montre du droit ces collabos payés avec tes impôts, TVA, textes et amendes. Soulève-toi lorsque l'on expulse ton voisin, au moins en laissant ton véhicule dormir dehors et en lui offrant ton garage ou ta cave. Soulève-toi, citoyen, quand ton patron, Carrefour, McDo ou Intermarché, t'ordonne de javeliser les produits de consommation jetés à outrance et remplace la javel avec de l'eau. Les croissants, ça revit dans le four. Si, il y a un four. Soulève-toi quand un jeune papa de même pas 20 ans ne trouve pas d'avocat car un avocat n'accepte pas d'être payé comme un plombier et tape du poing sur la table. Libre et égaux en droit, soulève-toi quand tu entends des ignominies à la caisse d'un supermarché accusant telle ou telle minorité d'être la cause de tous les maux. Soulève-toi, toi, le média que l'on oblige à vendre de la merde toute la journée. Car je t'accorde une excuse, celle de l'obligation. Tout comme je l'accorde à certains policiers, certains gendarmes ou certains militaires engagés trop vite et dégoûtés à vie. Citoyen, soulève-toi en bas de chez toi, soulève-toi partout autour de toi où le sens du bien est illusoire. Citoyen, soulève-toi ou ferme ta gueule. Stéphane Vidal, non fier d'être citoyen français comme Coluche, Balavoine, Mandrin, Zidane, Thuram, l'abbé Pierre, Bérégovoy, Xavier Mathieu, Nicolas Bedos, Sœur Emmanuel, Daniel Mitterrand, Jamel Bourras, Jamel Debbouze, Joe Star, comme tous les résistants qui savent qu'être français, c'est être au service de l'humanité. Stéphane Vidal. C'est sa signature. Non fier d'être citoyen français, mais digne de l'être. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était donc des textes de Stéphane Vidal. Je vous engage très fort à aller sur sa page sur Facebook, vous qui avez Internet, et de lire ses articles. Il y en a, 25, 30, et c'est tous des textes très forts, très émouvants. Et en tout cas des textes vécus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à Théo qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis, comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.